L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, l'histoire de la théorie de l'évolution. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole à propos. Mon nom est Pascal Deneau et aujourd'hui, je reçois Julien de l'Association des sciences créationnistes du Québec. Bonjour Julien.
Bonjour Pascal.
La dernière fois, donc, tu es passé à l'émission, tu nous as présenté le fondement scientifique de la théorie de la création intelligente par opposition à la théorie de l'évolution. Et aujourd'hui, on va tenter d'exposer l'origine de cette théorie, c'est-à-dire la théorie de l'évolution. Alors, contrairement à ce que plusieurs croient, cette théorie n'a pas débuté avec Charles Darwin, et puis Julien a retracé pour notre bénéfice l'histoire de la théorie de l'évolution. Alors, bien sûr, les 15 minutes d'aujourd'hui qui sont allouées à cette chronique seront pas suffisantes pour couvrir toute cette histoire, mais j'ai demandé à Julien s'il pouvait revenir dans les prochaines semaines pour nous exposer son matériel en entier. Alors, ça va être un peu comme une petite série sur l'histoire de l'évolution. Alors, Julien, pour exposer cette histoire, il nous faut remonter quand même il y a plusieurs siècles jusqu'à l'Antiquité grecque.
Oui, effectivement. Et ça commence environ 600 ans avant Jésus-Christ. En fait, Anaximandre de Myée, qui a vécu dans ces années-là, était un des premiers philosophes à consigner ses pensées par écrit. Il y a seulement quelques fragments de ces écrits qui nous sont parvenus, mais déjà, à travers ces écrits-là, on voit la pensée de l'évolution. Ce philosophe grec-là, il croyait en un mouvement éternel qui génère et détruit des mondes. Il croit dans la pluralité des mondes. Et juste pour vous donner une citation, pour vous montrer la pensée de l'évolution qui est déjà présente à cette époque-là, alors je cite, « Anaximandre de Myée estimait que de l'eau et de la terre réchauffées étaient sorties des poissons, soit des animaux tout à fait semblables aux poissons. C'est au sein de ces animaux qu'ont été formés les hommes et que les embryons ont été retenus prisonniers jusqu'à l'âge de la puberté. Alors seulement après que ces animaux eurent éclaté, en sortirent des hommes et des femmes désormais aptes à se nourrir. » On voit que c'est quand même un discours qui est assez spéculatif, qui est assez abstrait. C'est pas des notions de biologie qui sont énoncées là.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça ressemble pas à une théorie scientifique, mais c'est plus, c'est comme des hypothèses un peu, on pourrait dire philosophiques sur l'origine.
Ouais. Mais il faut se rappeler quand même que les philosophes grecs, à l'époque, étaient les scientifiques. Hein. Ils étaient souvent astronomes et physiciens. Alors, c'était vraiment la référence à l'époque. Et on voit que la pensée de l'évolution est là, elle est présente. On dit que des animaux ont éclaté, donc une espèce de génération spontanée. Ils sortent de la terre, de la matière. Ils sortent de l'eau, comme il dit. Et ce n'est pas du tout basé sur des faits scientifiques. Ce n'est pas basé sur une réflexion sur par quel mécanisme biologique ça a pu apparaître ou quelle découverte scientifique a pu nous amener là. C'est vraiment tout simplement une pensée un peu abstraite, spéculative sur une origine sans création. Et dans les philosophes très influents, il y a eu Démocrite aussi qui a vécu dans les années 400 avant Jésus-Christ. Et donc pour lui, l'univers se composait uniquement de deux éléments, les atomes et le vide. Alors ça a été le premier scientifique à décrire l'atome. Il était considéré, Démocrite, comme le plus scientifique des philosophes qui a vécu dans l'Antiquité, pour certains. Il était réputé pour avoir un très vaste savoir. Puis encore une fois, lui-ci, il avance une idée d'une hypothèse, de génération spontanée des êtres vivants. Pour lui, le monde et la nature n'est gouverné que par des forces aveugles. Il veut nier l'existence d'un Dieu créateur. Et on constate que son discours, à lui aussi, est très spéculatif et abstrait. Là, il n'y a pas de découverte scientifique qui vienne sous-tendre cette pensée-là. Et Démocrite va avoir une influence très grande sur les philosophes qui vont suivre. Sa vision de la nature va être reprise par Épicure et par Lucrèce.
Alors, c'était un athée, finalement.
C'est ça, effectivement. Le but de cet exercice-là, de ces scientifiques-là, était vraiment de remplacer la divinité par des forces créatrices aveugles, une espèce de mouvement aléatoire de la matière. On n'a pas le temps de citer, de donner plein de citations, mais ce sont des visions très spéculatives et abstraites. Et c'est important d'être conscient de tout ça, que toute cette vision-là, que les animaux sortent de l'eau, de la terre, sans force créatrice intelligente, sans Dieu créateur, ce n'est pas l'idée de Darwin du tout. Et même plus tard, on va voir dans les autres capsules que Darwin lui-même, à son époque, et bien avant lui, dans les siècles avant, là, il y avait toute l'idée du transformisme aussi qui est né. Ce n'est pas des découvertes scientifiques. L'évolution n'a pas une base scientifique et n'a jamais été motivée en premier lieu par la science. Elle a toujours été motivée par l'idée de vouloir rejeter la divinité, l'espèce de rébellion contre la divinité.
Mmh. Ouais, c'est la thèse de Romain 1, comme on se partageait avant de commencer l'émission. C'est ce qu'on voit, c'est si on veut donner une explication théologique à cette tendance-là. C'est dans Romain 1, ce que l'Écriture nous montre, c'est que la créature, depuis la chute, va nier la vérité qui est manifestée dans la nature, dans la création, qui lui révèle le Créateur et change la vérité en mensonge. Il y a une espèce de rébellion face à la création de Dieu et donc qui se manifeste concrètement dans ce qu'on a vu dans cette théorie d'évolution qui était déjà bien présente, déjà en embryon, pas comme la théorie moderne de l'évolution, mais qui commence déjà donc dans l'Antiquité.
Ouais, c'est ça. Et la raison, on va le voir plus tard, mais la raison qui a motivé aussi à l'époque de Darwin la renaissance de l'évolution, puis l'utilisation d'arguments scientifiques pour essayer de la promouvoir, c'était la même. C'était aussi une rébellion contre l'autorité de l'Église dans la science. C'était la même chose qu'à l'époque de ces philosophes grecs où ils étaient un peu tannés que la divinité était mise un peu partout et ils voulaient venir avec une pensée qui s'opposait à ça, mais il n'y avait pas de fondement scientifique. Ils avaient une motivation qui était plutôt une frustration contre les divinités. Et on voit ça donc dans la suite, Épicure et Lucrèce. Épicure, qui est un des philosophes les plus importants de l'Antiquité, qui a fondé l'épicurisme, il a vécu dans les années 300 avant Jésus-Christ. Il a repris l'atomisme, si on veut, de Démocrite. L'atomisme, qui est un peu la description de l'atome, la description du monde et de l'univers que Démocrite avait fait. Et pour Épicure, ben lui, il croit que l'âme n'est qu'un agrégat d'atomes. Et il croit aussi là, que dans la nature, il n'y a pour l'existence et l'origine des choses n'est gouvernée que par un mécanisme aveugle et amoral. Encore, cette idée de s'opposer à la divinité, à la création, est présente. Mais ce n'est pas Épicure. En fait, ce n'est pas les écrits d'Épicure qui nous sont parvenus, c'est plutôt Lucrèce, qui était son fidèle disciple, qui a vécu 100 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'Épicure, on a perdu la majorité de ses écrits, mais Lucrèce a repris sous forme un peu de poème les principes épicuriens. Et je vais citer deux citations de Lucrèce pour vous montrer jusqu'à quel point la pensée de l'évolution commence un peu à devenir un peu plus formelle dans la pensée épicurienne et reprise par Lucrèce. Alors, on parle toujours des atomes et voici ce qu'il nous dit sur les atomes Lucrèce dans son livre « De la nature ». Pour faire incessamment l'essai de tout ce que peuvent engendrer leurs combinaisons, il parle des atomes ici, il est arrivé qu'après avoir erré durant des siècles, tenté des unions et mouvements à l'infini, ils ont abouti enfin aux soudaines formations massives d'où tirèrent leurs origines ces grands aspects de la vie, la terre, la mer, le ciel et les espèces animales. Ce qu'il nous dit en d'autres mots, Lucrèce, c'est que les atomes font des essais, des combinaisons aléatoires et finissent par créer, avec les siècles et les siècles, la terre, la mer, le ciel et les espèces animales. On en vient à une vision un peu plus formelle de l'évolution, alors que on repousse la divinité, on repousse l'idée d'un Dieu créateur. Et ce qu'il nous dit, Lucrèce aussi, voici une autre citation très intéressante, il dit « Si tu possèdes bien ce savoir, La nature t'apparaît aussitôt libre et dépourvue de maître tyrannique, accomplissant tout d'elle-même sans nul secours divin. Alors, on voit cette espèce de rébellion qui est très présente et même une espèce d'arrogance. Hein? Il dit, si tu possèdes bien ce savoir. Ça, c'est le même discours que les évolutionnistes aujourd'hui. Ils disent, si tu es vraiment scientifique, tu vas voir que l'évolution est vraie. Mais on voit que leurs arguments, c'est des mêmes vieux arguments qui sont basés sur des fraudes qu'il y a, qui datent de un ou deux siècles. Il n'y a plus rien dans la science d'aujourd'hui qui vient appuyer l'évolution. Il n'y a pas de fossiles intermédiaires. Il n'y a même pas de bactéries qui se transforment en autre chose à force de mutations génétiques. Mais on continue toujours. C'est très, très présent dans les débats et dans la littérature de propagande évolutionniste que si tu possèdes la science, si tu es vraiment un scientifique, un vrai scientifique objectif, tu vas voir que la nature est capable de créer d'elle-même puis on n'a pas besoin d'un créateur.
Ouais, c'est le pouvoir d'auto-persuasion alors que... On accuse les créationnistes de croire aveuglément. On se rend compte que finalement, cette approche-là évolutionniste, athée, est une démarche de foi autant sinon plus que l'approche créationniste. Parce que c'est pas, en tout cas, de ce que tu nous démontres, c'est pas né d'observation scientifique, mais c'est vraiment motivé par un désir de se libérer d'une théorie qui est contraignante. Qui est la divinité sur l'autorité de Dieu sur la création. Alors, c'est vraiment ce qu'on voit avec ces philosophes-là, c'est un peu la naissance du matérialisme.
Oui, effectivement. L'idée, donc, avec Démocrite, là, qui est probablement, on pourrait dire, un des fondateurs du matérialisme, où il dit que tout n'est composé que d'atomes et de vide, hein, pour reprendre ses mots. Alors, à partir de ce moment-là, tout ce qui reste en main, pour ces personnes-là qui croient dans ce matérialisme-là, c'est un mouvement aléatoire de la matière. La matière bouge de façon aléatoire et à un certain moment donné se combine et forme des terres, forme des planètes, des étoiles, éventuellement des cellules. Mais à cette époque-là, et même à l'époque de Darwin, on n'était pas conscient que la bactérie, qui est la forme de vie la plus simple sur Terre, si on exclut les virus qui ne peuvent pas se répliquer tout seuls, la bactérie est plus complexe qu'un ordinateur moderne. On serait-tu prêt à dire que par un mouvement aléatoire de matière, on pourrait avoir un ordinateur qui se crée?
Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme si on prenait toutes les lettres que dans un dictionnaire, on les laisse partir au vent et puis on espère que ça va donner quelque chose d'ordonné et d'organisé comme un dictionnaire qui a un sens.
Effectivement, avec un langage, avec une orthographe, une syntaxe et quelqu'un qui est capable aussi de le lire et de l'interpréter. Ce qui correspond à l'ADN dans la cellule. Hein, l'ADN, c'est en fait un alphabet, des instructions écrites qui disent comment faire un œil, comment faire la rétine. Mm-hmm. Mais cet ADN-là est lu par d'autres parties de la cellule. Hein, ces instructions-là sont lues. Fait que c'est même pas juste de créer un dictionnaire pour reprendre ton idée, mais c'est d'avoir aussi un interprète qui est capable de lire les instructions et de construire les différentes parties anatomiques de l'œil. Alors, c'est même plus que de dire qu'une cellule est analogue à un ordinateur parce que la cellule possède en elle-même des informations et la façon d'interpréter les informations pour construire.
Les cieux révèlent la gloire de Dieu, l'étendue annonce l'œuvre de ses mains, on voit donc l'intelligence de Dieu qui est répandue partout dans sa création. On va interrompre ici, donc c'est une introduction vraiment intéressante sur cette histoire de l'évolution. On voit vraiment en embryon ces racines de ces schémas qu'on reprend de la chaîne de l'évolution qui étaient déjà dans la philosophie plus que dans la théorie scientifique. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement un petit peu vers quoi on va aller dans notre prochaine discussion?
Oui, c'est ça. Donc, parallèlement au philosophe de l'Antiquité grecque qui donc reniait la divinité, il va y avoir Aristote et Platon de qui il va falloir discuter parce que Aristote et Platon vont avoir une vision un peu à l'opposé de ça et vont fortement influencer toute la pensée chrétienne qui va suivre dans les siècles après leurs écrits, donc Aristote et Platon, et ils vont avoir donc une influence aussi sur le monde scientifique, hein, qui était fortement lié au christianisme au Moyen Âge.
Bon, ben, ça va être très intéressant. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer cette discussion. Merci, Julien.
Merci, Pascal.